À une époque déjà lointaine, certains voyageurs de commerce vendaient leurs produits en faisant du porte-à-porte. Je me souviens encore d'un représentant en aspirateur faisant une démonstration dans notre salle à manger. C'est un métier très difficile et j'en sais quelque chose, non pas pour l'avoir exercé, mais parce que j'ai moi-même fait du colportage dans les cités universitaires, les tours et les bars de plusieurs villes. Et parfois, quand on me recevait comme un chien dans un jeu de quilles, je pensais « Mais pourquoi donc Dieu n'envoie-t-il pas un ange ou toute une armée frapper aux portes? Ça irait vite, car ils peuvent travailler 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. Et puis, si on veut éviter les ennuis, on ne maltraite pas un ange. » Eh bien, pendant la tribulation, ce ne sont pas des êtres célestes que Dieu va envoyer en mission sur terre, mais presque, puisque ce sont deux hommes venant du ciel. Je continue à lire dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. « Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Verset 3. « Celui qui parle ne peut être que Dieu le Père ou le Fils. » Le mot pour témoin a donné martyr en français, et il est toujours utilisé pour désigner un croyant fidèle à son Seigneur. Cette correspondance de mots nous rappelle qu'un vrai témoin de Jésus-Christ est prêt à donner sa vie pour lui. Ces hommes seront finalement mis à mort et leurs cadavres exposés à la vue de tous, ce qui prouve que ce sont de véritables êtres humains et non pas des symboles ou des organisations anonymes. Ils sont deux parce que selon les Écritures, il faut au moins deux témoignages pour confirmer un événement ou une vérité. Dans la loi, il est dit, la déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu les déclarations de deux ou de trois témoins. Et Jésus a dit aux Juifs, « Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. » Jésus a aussi enseigné, « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. L'apôtre Paul également respecte cette règle. Il écrit « Voici donc la troisième fois que je viendrai chez vous. Comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur la déposition de deux ou trois témoins. » N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. La mission des deux hommes venus du ciel est de prophétiser. Ce mot signifie pas seulement annoncer l'avenir, mais aussi déclarer, proclamer ou encore prêcher. Ils seront revêtus de sacs, une sorte de toile grossière qu'on portait en signe de deuil, de détresse et pour s'humilier. Jacob s'est ainsi vêtu quand il a cru que son fils Joseph avait été tué par une bête sauvage. Ézéchias, roi de Juda, a revêtu un sac quand Jérusalem était encerclée par les Assyriens. Job déclare « J'ai cousu sur ma peau une toile de sac et j'ai traîné ma dignité dans la poussière. » David, Ésaïe, Daniel et bien d'autres se sont aussi revêtus de sacs. Les deux témoins portent cette toile grossière parce que d'une part, la tribulation est une période d'angoisse terrible et d'intense jugement sous forme de catastrophes extraordinaires qui détruisent la terre et ses habitants. Et d'autre part, ils sont chargés de proclamer que le pire est encore à venir. Leur ministère s'étendra sur 1260 jours, mais il ne nous est pas dit quand il débute ou finit. Il se peut que ces hommes soient apparus avant le milieu des 7 ans de tribulation et que leur ministère est à cheval sur les deux moitiés. Je continue le texte. Ces deux témoins sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 4. Cette description énigmatique est tirée du livre de Zacharie, mais elle ne nous donne pas les noms des deux personnages. Comme beaucoup de prophètes, la vision de Zacharie s'accomplit en deux étapes qui se télescopent, mais qui sont séparées par un long laps de temps. Le premier accomplissement fut la reconstruction du temple sous la direction de deux chefs, l'un religieux, c'est le grand prêtre Josué, et l'autre politique, c'est le gouverneur Zorobabel. Mais le deuxième accomplissement de la prophétie de Zacharie prophétise la restauration d'Israël qui aura lieu à la fin du millénium. Les oliviers et les chandeliers pris ensemble symbolisent la lumière étant donné que l'huile d'olive servait de combustible pour alimenter les lampes. Tout comme Josué et Zorobabel, les deux témoins présideront le renouveau spirituel d'Israël et leur prédication jouera un rôle crucial dans la conversion d'Israël en tant que nation. Concernant l'identité précise de ces deux témoins, il va sans dire qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Une majorité de commentateurs s'accordent pour dire que l'un d'eux sera Élie, le prophète Élie. En effet, Malachie a prophétisé disant « Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. » Et à la question des disciples « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu ?» Jésus a répondu « Effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Il faut bien noter cependant que Élie doit venir et Élie est déjà venu sont deux accomplissements différents mais qui se télescopent d'une même prophétie. Le premier Élie, c'était Jean-Baptiste. Et le second sera Élie lui-même. En effet, quand l'ange Gabriel a parlé au prêtre Zacharie, futur père de Jean-Baptiste, il lui a dit que son fils accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais il n'a pas dit qu'il serait Élie en personne. Donc, on l'attend toujours. Maintenant, pour ce qui est du deuxième témoin, les avis sont très partagés. C'est Moïse qui obtient le plus de suffrages devant Hénoc, et loin derrière on a aussi Jean-Baptiste. En faveur de Moïse, on a le fait qu'avec Élie, il représente la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ensuite, les prodiges que les deux témoins accompliront, comme détruire leurs ennemis par le feu, empêcher la pluie de tomber, changer l'eau en sang, ou frapper la terre de diverses plaies, rappelle les miracles qu'Élie et Moïse ont fait chacun en leur temps. Deuxièmement, Élie et Moïse sont tous deux apparus au moment de la transfiguration, un événement où Jésus a été revêtu de gloire, ce qui annonçait sa seconde venue. Maintenant, en faveur d'Hénoc, nous avons l'argument suivant. On sait que les deux témoins venus du ciel vont être tués. Et il se trouve que Hénoc n'est encore jamais mort. En effet, un texte dit « Hénoc vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. » Or, un passage du livre des Hébreux dit que le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Donc, en toute logique, il faut qu'Hénoc revienne sur terre pour mourir. Je suis pas contre le retour de ce fidèle du Seigneur, mais ce raisonnement est un peu tiré par les cheveux, parce qu'une interprétation correcte des Écritures demande plus de sagacité que résoudre une équation. Premièrement, on pourrait objecter qu'à la lumière du passage du livre des Hébreux, ni Moïse ni personne d'autre ne devrait mourir deux fois, et pourtant, c'est bien arrivé. Je pense à Lazare que Jésus a ressuscité. Autant que je sache, il est mort une seconde fois. Deuxièmement, l'emphase de la règle générale que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne porte pas sur le fait de mourir une fois, mais bien plutôt sur la certitude du jugement après la mort. De plus, quand ces deux témoins descendront sur terre, l'enlèvement de l'Église aura déjà eu lieu, et avec elle, tous les croyants qui étaient sur terre et bien vivants à ce moment-là. Or, eux non plus ne connaîtront jamais la mort. Donc ce verset du livre des Hébreux est insuffisant pour prouver que le second témoin est Hénoch. Je connais au moins un prédicateur qui pense que le deuxième témoin sera Jean-Baptiste parce que d'une part, il fut le précurseur de Jésus lors de sa première venue et appelait ses contemporains à revenir à l'Éternel. Comme Jean ne nous donne pas les noms de ces deux témoins, gardons-les anonymes. Je continue le texte. Si quelqu'un veut leur faire du mal aux deux témoins, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils voudront. Versets 5 et 6. Qui que soient les témoins, ils ont une puissance de feu impressionnante et comme je l'ai déjà dit, leurs miracles sont similaires à ceux d'Élie et de Moïse. En pleine tribulation, le chaos règne à tous les niveaux de la société. Le monde foisonne de fausses religions et même de faiseurs de miracles. Mais Dieu authentifie ces deux hommes et leurs messages en les dotant de pouvoirs surnaturels supérieurs à ceux des démons. Par leurs prodiges, ils attirent l'attention des habitants de la terre pour les avertir des jugements terribles encore à venir et pour leur annoncer la nécessité de se repentir afin de saisir la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Évidemment, le monde impie éprouve une profonde haine pour ses témoins et on cherche par tous les moyens de les faire taire, mais en vain car ils sont invincibles pendant toute la durée de leur ministère. Soit dit en passant, le croyant est lui aussi immortel jusqu'à ce que Dieu décide que son œuvre ici-bas est terminée. Bien que ses témoins soient détestés, on les redoute, car ceux qui veulent leur faire du mal se voient transformés en torches vivantes. L'absence de pluie pendant 3 ans et demi exacerbe les souffrances des populations, car elle entraîne la destruction des récoltes, la mort des animaux, de nouvelles famines et de nouvelles pertes en vie humaine. Je continue le texte. Mais lorsque les deux témoins auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Verset 7. C'est ici la première fois qu'on rencontre la bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Ici, Jean nous apprend que l'origine de sa puissance est l'abîme, c'est-à-dire que ce dirigeant d'envergure mondiale est doté d'un pouvoir surnaturel qui lui vient de Satan. Au grand soulagement des habitants de la terre et avec l'aval de Dieu, bien entendu, l'Antichrist réussit à mettre à mort les deux témoins. Je continue. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Verset 8. Une fois mort, par mépris pour ces deux témoins, on laisse leur dépouille à la curiosité morbide du monde entier. Dans l'Antiquité, exposer ainsi un cadavre était le comble de l'ignominie, l'ultime moyen de le profaner et de le déshonorer. Cette pratique était d'ailleurs interdite par la loi aux Israélites. Jean donne un nouveau nom symbolique à Jérusalem pour exprimer combien elle est dominée par le mal, ce qui n'est pas étonnant puisque l'Antichrist a installé son trône dans le temple. L'apôtre n'est pas le premier à surnommer Jérusalem de la sorte. Le prophète Ésaïe a été tout aussi sévère quand il a dit « Vous, les chefs de Sodome !» écoutez bien ce que dit l'Éternel, vous, peuple de Gomorre, écoutez bien la loi de notre Dieu. La mention de l'Égypte tient au fait que dans les Écritures, cette nation a généralement très mauvaise presse, parce que pour les Hébreux, c'est le lieu d'esclavage, le centre de l'idolâtrie et des plaisirs mondains. Je continue. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Verset 9. Après la mort de Jésus sur la croix, Ponce Pilate a permis à ses disciples de prendre son corps afin de l'ensevelir. Mais il n'en sera pas ainsi des deux témoins. Les gens seront d'abord surpris d'apprendre qu'ils ont été tués, et chacun les verra sur son gadget audiovisuel, une télé, un ordinateur ou un téléphone portable. Car les corps sans vie des deux hommes feront le tour du monde grâce aux chaînes de télévision et des retransmissions par satellite. Les habitants de la Terre demanderont à ce que ces cadavres pourrissent sur place, et ils voudront également se réjouir avec l'Antichrist et lui rendre hommage pour sa victoire sur les deux prédicateurs à cause de la sécheresse qu'ils ont provoquée et de la bonne nouvelle de Jésus qu'il proclamait. Cet étalage macabre durera 3 jours et demi. Mais, tout compte fait, la défaite apparente des témoins de Dieu est de très courte durée comparée à la période de leur témoignage qui a duré 3 ans et demi. Je continue. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Verset 10. L'Antichrist et le monde entier impie jubilent et le diable en profite pour se déguiser en Père Noël. L'ironie de cette liesse internationale est que c'est le seul endroit dans le livre de l'Apocalypse où il y a des réjouissances, mais c'est plutôt une exultation frénétique qui sort tout droit des antres de l'enfer. Les habitants de la terre pensent s'être débarrassés de ces deux témoins gênants et avec eux des châtiments divins, mais c'est vraiment méconnaître Dieu. La mise à mort de ces deux prédicateurs et les jubilations qui suivent mettent un terme à l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde. Les impies confirment qu'ils ont atteint le point de non-retour, à l'exception de certains habitants de Jérusalem. Ceux qui n'ont pas accepté de s'humilier devant le Seigneur n'en auront plus l'occasion, et leur sort est désormais scellé pour l'éternité. Jean ne nous donne guère d'indices sur la chronologie des événements. Il semble cependant que nous sommes dans la dernière année des 7 ans de tribulation, mais pas encore à la fin, car il reste les jugements de la 7e trompette qui déclenche les 7 coupes de la colère de Dieu. Je continue. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Verset 11. Voilà plus de 3 jours que les caméras de télévision sont braquées sur les cadavres des deux témoins qui sont étalés en disgrâce sur la place principale de Jérusalem. Soudainement, un commentateur de télé s'écrie « Mais on dirait qu'il bouge !» Oui, il se lève, s'étire, comme s'il sortait d'un profond sommeil. Les habitants de la terre les observent épouvantés. Les réjouissances cessent abruptement pour faire place à la plus grande consternation. On ne parle que de ça. C'est la panique. Un choc émotionnel violent secoue le monde entier. Je continue. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins. « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Verset 12. C'est la voix du Seigneur qui se fait entendre, la même que celle qui au début a dit à Jean « Monte ici !» Quand Dieu commande, on obéit, et les deux témoins sont enlevés au ciel devant les caméras de télévision qui retransmettent cette scène en direct et en boucle. Devant leurs petits écrans, les impies sont stupéfaits. Cette ascension rappelle celle du prophète Élie. En effet, pendant qu'il marchait en compagnie d'Élisée, son successeur, le texte dit qu'un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Les deux témoins ne sont pas autorisés à reprendre leur ministère pour deux raisons. Premièrement, la prédication universelle du salut est terminée et le temps de grâce touche à sa fin. Deuxièmement, si les impies n'ont pas accepté le message de ces deux hommes, ce n'est pas leur résurrection qui changera quoi que ce soit. Leur cœur impénitent et dur restera de pierre.